Première table ronde. Quelle évolution dans le secteur du recyclage ?
Et voilà, on démarre sur notre colloque « L'avenir est dans nos poubelles ». Je vous présente les invités, les participants de la première table ronde. Adélaïde Motte, chargée d'études chez l'IREF, hein, un think tank libéral européen fondé en 2002. Et puis avec nous également, Augustin Jacquelin, cofondateur président de Lemon Tree. Augustin Jacquelin, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Loïc Le Floch-Prigent, PDG de OMP Fonderie sous pression Zamac. Il est de tous les colloques car il a des idées sur tout et ce sera très intéressant. Patrick Bariol, directeur général de l'Éco, bienvenue à vous. Bonjour. Pour cette émission. Je vous présente également Guy Geoffroy, il est président de l'association Météor, président des Écomères, extrêmement intéressant, bien sûr on en parle dans un instant. Bonjour,
bonjour.
Guy Geoffroy, je commence par ces dames. Adélaïde, vous avez toujours plein de bons chiffres, des data qui nous permettent de planter le décor. Alors moi j'ai vu en France chaque année ce sont 350 millions de tonnes de déchets par an. C'est fou ce qu'on produit comme déchets, Adélaïde.
Alors c'est fou, mais en fait on peut se féliciter parce que 350 millions de tonnes de déchets par an, comme vous dites, c'est seulement 5 tonnes par habitant. Or, les Finlandais en produisent 23, les Bulgares 18, les Suédois 13, les Roumains 10. Donc en fait on est plutôt dans la moyenne européenne, mais on est plutôt bas en termes de déchets par habitant.
Bon élève, la France, alors, en quelque sorte.
Finalement, ça va. En fait, comme on est un pays très peuplé, on produit forcément beaucoup.
Oui.
Mais quand on ramène aux tonnes par habitant, finalement, c'est plus si ahurissant que ça.
Exactement.
Et en plus, la plupart des déchets ne sont pas produits par vous et moi, ils sont produits par la construction, qui en plus en recycle les deux tiers. Soit en remblai, soit en concassage, soit en valorisation. Donc non seulement on ne produit pas tant que ça, en plus vous ne produisez pas tant que ça, et enfin, la majorité des déchets sont en fait recyclés. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et en plus on produit de moins en moins, puisque puisque les ordures ménagères, donc celles que vous produisez, sont passées de 24 à 43% de recyclage entre 2000 et 2017. On a également vu se multiplier les installations qui sont spécialisées dans le recyclage, donc les composteurs, les centres de tri, de valorisation, etc. Il y en a 50% en plus entre 2000 et 2017. Donc finalement, 250 millions de tonnes, c'est pas si énorme, tout va bien.
Et Sophie de Menton a juste utile de parler tout de suite des entreprises. On leur demande beaucoup de choses. Oui. Avez-vous des indications sur cet effort qui est demandé aux entreprises ?
Tout à fait. En fait, je vous ai dit que le recyclage était en constante progression. On recyclait 60% de l'ensemble des déchets en 2010. On en recycle aujourd'hui 66%. Et en fait, donc, je vous ai également dit que les entreprises produisaient la plupart des déchets. Et elles les recyclent. Mais en fait, c'est assez méritoire comme effort parce que les recettes qu'une entreprise retire du recyclage sont 4 à 5 fois inférieures au coût total du déchet. Donc, c'est pas forcément très rentable pour une entreprise de recycler, mais elles le font quand même. En plus de ça, bien sûr, la gestion des déchets, ça a un coût payé aux collectivités locales pour la collecte, etc. Et les entreprises financent 55% de ce budget qui s'élève à 20 milliards d'euros quand même. Oui. C'est le budget 2019. Donc c'est alloué à la gestion des déchets. Les entreprises en payent 55%.
Alors, c'est vraiment intéressant. On va revenir vers vous, Adélaïde. Loïc Le Floch-Prigent, votre société, hein, OMP Fonderie, vous concevez des pièces techniques de grande précision, si j'ai bien compris. Vous manipulez du zinc et vous dites que vous recyclez 100%. Vous êtes le parfait bon élève. Tout est recyclable chez vous.
Le Zamac est complètement recyclable. Et c'est complètement ignoré, c'est-à-dire que de temps en temps, j'ai des gens qui arrivent, des clients qui arrivent, dire vous n'êtes pas écolo. Alors, pourquoi écolo ? Non, c'est pas bien le Zamac. Il dit, je suis au contraire, je fabrique à partir d'un matériau qui fond à 480 degrés et qui est complètement recyclé. Et c'est ignoré. Donc je crois qu'il faut, quand on parle recyclage, on voit aussitôt plastique, problème du plastique, c'est ça que vous avez développé. Mais bon, mais en fin de compte, il y a un nombre de matériaux extrêmement élevé, et des matériaux métalliques. Il y a des matériaux organiques qui ne vont pas tomber dans la, catégorie du plastique,
d'ailleurs.
Etc. Donc il faut essayer de comprendre de quoi on parle. C'est pour ça que les chiffres que donne Adélaïde sont parfaits. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de l'effort de fait. Et cet effort n'est pas, alors je dirais pas récompensé, mais n'est pas compris par le public. C'est-à-dire que le public continue à voir l'entreprise comme la pollution, on ne fait pas le travail, vous faites mal, etc. Et effectivement, c'est ça qui arrive dans les médias. Vous ne faites pas le travail, vous faites pas le travail.
Or, critiquez pas les médias, concerne, hein, vous allez me vexer dès le matin.
En ce qui concerne le Zamac, donc c'est un composé à base de zinc avec du magnésium, de l'aluminium et du cuivre. Ils font 480 degrés et vous l'avez dans la vie quotidienne à peu près partout. Lorsque vous fabriquez, vous avez des chutes, puisqu'on fabrique par injection. Ces chutes, on les recycle. On ne les recycle pas gratuitement, c'est-à-dire que ça coûte effectivement, mais on considère que c'est quelque chose qui est bien en soi. Ce n'est pas bien en soi, ta preuve, lorsque dans le plastique on a les mêmes fonctionnements, eh bien ça coûte cher de faire l'installation immédiate pour reprendre le plastique qui a des chutes. Ça, on considère que ce n'est pas finançable, c'est votre travail. Non, ce n'est pas notre travail. On pourrait très bien considérer que les chutes, on les enlève. Non, on les recycle parce qu'on considère que c'est bien. Et ça, c'est l'industrie française qui le fait, contrairement à d'autres industries dans d'autres pays qui finissent par avoir des meilleurs prix du produit fini parce qu'ils ne font pas ce recyclage, parce que le recyclage coûte. Alors, je crois qu'il faut remettre dans l'esprit que nous avons eu un effort considérable de fait par les entreprises françaises pour recycler les produits avec des circuits courts, parce qu'il ne faut pas aussi prendre l'idée qu'on va avoir des produits qui arrivent de 1500 ou 2000 kilomètres et que c'est pour le bien public. Ce n'est pas vrai. Il faut essayer de trouver les solutions pour que les produits puissent être réutilisé industriellement assez près des entreprises industrielles. Nous, là, on fait cet effort, et cet effort n'est absolument pas, je dirais pas récompensé, mais reconnu. Hein, je ne demande pas de récompense, mais qu'au moins on arrête de dire que les entreprises n'ont pas leur travail. Ce n'est pas vrai. En France, on fait tellement de travail de recyclage qu'effectivement, on a une rentabilité inférieure à celle d'un certain nombre de nos concurrents, et ça a participé, le fait de ne pas être reconnu comme ça, a participé à la délocalisation de nos entreprises. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens sont partis à cause de ça.
On va y revenir. Je redonne la parole à Adélaïde Motte, hein, qui fournit des chiffres et des analyses. On parlait le coût de la gestion d'une tonne de déchets. Vous en parliez du coût de la gestion. Est-ce que vous auriez quelques pépites, non pas dans vos poubelles, mais dans vos dossiers, ma chère Adélaïde?
Oui, tout à fait. Entre 2010 et 2016, le coût de gestion d'une tonne de déchets est passé de 191 à 212 euros.
Voilà. Donc, quelle inflation.
Donc, en termes d'efficacité budgétaire, enfin financière, pardon, c'est bon. On va dire qu'on peut mieux faire. Surtout qu'en plus, derrière, vous avez une augmentation des taxes et des redevances qui sont liées à cette gestion des déchets. Vous avez par exemple, vous savez, la taxe et redevance sur la gestion des ordures ménagères a augmenté de 4...
Je ne savais pas.
Vous la payez, donc normalement.
La taxe redevance télé, ça me rappelle quelque chose, mais
on
ne sait pas toujours toutes les taxes qu'on a.
Il y a des taxes absolument remarquables.
Ouais,
sur le Zamac, on est passé d'une taxe à quatre taxes. Ah, comme ça, en quelques semaines, sans tambour ni trompette, on peut aller électoral.
C'est intéressant. Tranquille.
On prend des taxes.
Donc cette taxe sur les ordures ménagères a augmenté de 4%, mais la taxe sur les activités polluantes, vous avez plusieurs déchets, vous avez les déchets minéraux, les déchets dangereux, et puis le reste qui comprend entre autres les ordures ménagères. Et la taxe sur les activités polluantes est passée de 40 à 54 euros par tonne, donc vous avez également une augmentation de ce côté-là.
Très bien. Eh bien, merci. On plante le décor. Et puis, je me tourne vers Météor, une association créée à l'initiative du syndicat de traitement des déchets à la charge des entreprises. Et vous pouvez nous rappeler, mon cher Guy Chauffroy, quels sont les partenaires autour de la table? Parce que c'est intéressant, je crois que vous avez plusieurs profils, hein, chez Météor.
Oui, nous avons pris l'initiative il y a un peu plus de 15 ans de créer cette association à partir du monde des collectivités locales. Et là, on est sur les problématiques des déchets ménagers. Et on parlait tout à l'heure de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la TGAP, je pourrais vous en dire deux mots, parce que c'est des choses qui évoluent, non pas dans notre dos, mais nous ne sommes que des boîtes aux lettres pour l'État à faire supporter par nos concitoyens. Ça, c'est autre chose. Et nous avions le souhait de mettre en valeur une initiative qui se développe, mais qui peine malgré tout à prendre son essor du fait, je vais les qualifier un peu comme je le pense, de certains ayatollahs dans les milieux gouvernementaux, qui est la méthanisation de la partie fermentescible des déchets ménagers. Il y a une chose parmi les plus imbéciles que l'on puisse constater, c'est de brûler de la matière organique. Dans nos déchets ménagers, il y a entre 35 à 40% de matière organique, des produits fermentescibles. C'est les déchets alimentaires, mais pas que. Il y a énormément de déchets fermentescibles. Et nous, nous sommes partis de l'idée qu'il fallait absolument faire en sorte que cette partie fermentescible puisse fermenter, puisse produire du méthane, et ensuite le digesta qui en ressort puisse devenir un amendement organique, c'est-à-dire que nous puissions faire de ce digesta un compost qui respecte les normes de plus en plus exigeantes par ailleurs et qui a le grand mérite de retourner à la terre. Pour vous donner un chiffre, seuls 2% des terres agricoles de notre pays aujourd'hui reçoivent du compost issu en particulier des déchets ménagers. Il y a une marge, 98% de progrès, ça donne de l'espérance à beaucoup, me semble-t-il. Et nous avons souhaité donc créer cette association pour promouvoir la méthanisation de la partie fermentescible des déchets ménagers. Et nous avons voulu y associer les industriels qui conçoivent, construisent et exploitent nos installations et les bureaux d'études qui aident aussi bien les collectivités que les industriels à faire les bons choix, à utiliser les bons process et ensuite à bien les faire fonctionner. Un petit chiffre sur la TGAP, pour compléter les choses. TGAP sur la méthanisation, c'est-à-dire sur 40% de ce que nous traitons, zéro. Zéro. TGAP sur l'incinération, c'est-à-dire ce qui ensuite produit encore de l'énergie, mais est considéré comme polluant, c'est ce qu'on appelle, nous, l'incinération de tous les refus de compostage, c'est-à-dire les 60% qui rentrent dans nos chaînes de tri et qui ne sont pas méthanisables. C'est passé de 5 à 12 euros d'une année sur l'autre. C'est pas 4%, hein, de 5 à 12 euros. Et puis, quand il n'y a ni méthanisation, ni incinération, et qu'on va directement en enfouissement, jadis c'était la décharge, maintenant on utilise les termes assez savants de centre d'enfouissement technique, c'est passé effectivement de 40 à 52. Et c'est pas au doigt mouillé, c'est déjà fixé pour l'avenir. La TGAP, qui est l'exemple parfait de la punition de l'acte quotidien de chaque citoyen de notre pays. Vous savez, depuis un quart d'heure, on produit des déchets autour de la table. Nous produisons des déchets bien malgré nous, parce que toute activité de vie produit des déchets. Bon, eh bien, la TGAP est l'impôt qui va lourdement pénaliser les collectivités qui font des efforts considérables, et leurs habitants avec, bien sûr, pour produire moins de déchets, pour trier mieux les déchets, pour prendre le déchet dans toute sa richesse dans le bon ordre. On méthanise ce qui peut être méthanisé, on incinère ce qui peut être incinéré, et il reste le minimum de déchets dits ultimes que l'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de mettre en enfouissement, en constatant que nous progressons sur toutes les lignes. Nous trions de mieux en mieux, nous avons de plus en plus d'emballages recyclés, nous méthanisons de mieux en mieux pratiquement 100% de la matière organique qui rentre dans notre chaîne de tri. Nous incinérons de manière beaucoup moins polluante qu'à l'époque de la dioxine et compagnie l'ensemble des déchets ménagers qui doivent être incinérés. Et nous mettons en enfouissement technique de moins en moins de matière inerte. Tout ça va dans le bon sens.
Et
ça n'est pas assez. Et nous sommes dans une écologie. Punitive. Alors, l'écologie punitive, c'est ce qui fait reculer la société tout entière.
Alors, si je ne peux pas faire circuler la parole, je vais vous punir, cher Geoffroy, je plaisante, parce que je veux également donner la parole, c'est extrêmement intéressant, toutes ces pistes lancées, à Augustin Jacquelin, et il s'y connaît effectivement dans le domaine, puisqu'il est cofondateur président de Lemon Tree. Alors, j'imagine que ce n'est pas juste le tri du citron, Lemon Tree, mais c'est extrêmement intéressant parce que vous dites, si l'on ne recycle pas assez, c'est parce que l'on ne sait pas recycler. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Oui, ben, je vais rebondir effectivement sur ce qui a, été dit.
Et puis répondre un tout petit peu à ma question, bien ce sûr. Serait gentil, merci.
Moi, je suis globalement pas d'accord avec vous. Hein. Je trouve que la TGAP, effectivement, c'est punitif, mais ça fait bouger les choses. Parce que le fait que ça augmente, ça fait aussi en sorte qu'on oriente vers des modes de traitement plus vertueux. Quand on vous dit qu'elle va augmenter, elle va faire x4 sur les 5 prochaines années, eh ben, forcément, ça fait réfléchir sur quelles alternatives on peut trouver. Et vous l'avez bien dit, les marges de progression sont énormes. Quand vous arrivez à sortir les 30% de biodéchets qu'on a encore dans nos poubelles, parce que c'est une aberration que de les envoyer dans un incinérateur, ben, voilà.
Pour expliquer d'où vous parlez, si vous pouvez dire un petit peu ce qu'est Lemontry, et puis comme je vous le disais, vous disiez c'est parce qu'on ne sait pas recycler. Ça va comprendre votre point de vue. Ça va
oui, permettre je me suis lancé direct dans le débat parce que voilà, le sujet me passionne un peu forcément.
Mais on va y venir.
Donc, en quelques mots, Lemontry, donc c'est une entreprise qui a 12 ans, qui est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises justement dans leur gestion de leurs déchets, avec des technologies innovantes pour aider notamment à mieux trier, à mieux capter, parce qu'on parle de recyclage de techniques, mais en fait, en amont, il faut déjà pouvoir faire le tri, et encore en amont, il faut déjà capter ces matières qui, parfois, sont parfaitement recyclables, mais qui nous échappent. Donc, concrètement, nous, on fait deux choses. On installe des dispositifs, c'est-à-dire qu'on dit à des entreprises, donnez-nous les clés de vos déchets, on va s'occuper de tout, on va d'abord regarder ce qu'il y a dedans, et puis trouver des exutoires plus vertueux, donc des techniques de gestion de ces déchets qui sont plus vertueux. C'est le recyclage, mais c'est aussi le réemploi, c'est aussi la réduction.
Je peux vous rapprocher de votre micro, excusez-moi, on vous écoute. Oui.
J'espère qu'on m'entend mieux.
Voilà, pour ne rien perdre, qu'il n'y ait aucun déchet de votre parole. Voilà.
Et après, on a une autre activité qui est plus spécifique, et en fait l'activité historique de Lemontry, c'est qu'on installe des automates de collecte, justement pour capter des emballages qu'on sait très bien recycler et qui n'arrivent jamais dans le bon tuyau, un peu dans un esprit de consigne que voilà, certains ont pu connaître, qui existent encore dans des pays voisins, qui sont plutôt le haut du panier en termes de performance de gestion des déchets. Et nous, on souhaite et on installe ces bornes pour augmenter notamment les taux de recyclage.
Alors sur les tags, vous dites qu'il ne faut rien changer, vous ?
Non, je dis qu'il y a un mouvement actuel qui effectivement peut paraître un peu punitif, mais en fait qui fait énormément bouger les lignes. Cette fameuse TGAP dont on parle depuis tout à l'heure, elle vous dit, bah oui, quand vous envoyez une tonne dans un centre de stockage, donc en enfouissement, hein, il faut que les gens comprennent bien que globalement l'enfouissement c'est un grand trou et l'incinération un grand four. Alors derrière on peut récupérer de l'énergie, on peut faire un petit peu mieux, mais c'est quand même de la perte sèche de matière.
Est-ce que vous croyez vraiment que les entreprises ont besoin d'être punies pour avancer ? Est-ce qu'elles n'ont pas avancé pendant toute la période où vous n'étiez pas là ? Moi, je trouve qu'au contraire, on a avancé de façon remarquable, et moi, je n'ai pas besoin d'être puni. Moi, j'en ai marre des mecs qui viennent me voir en disant, alors, si jamais vous ne faites pas ça, vous allez payer. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est essayons de trouver les solutions, et on essaie de les trouver dans nos entreprises. Moi, je n'ai pas seulement OMP, j'ai 6 entreprises. Dans toutes les entreprises, les types sont là pour essayer de moins gaspiller, faire mieux. Mais il y a aussi là-dedans l'individu au travail. Alors ça, celui-là, on l'oublie complètement. Enfin, l'individu au travail, il faut qu'il ait de meilleures conditions. Alors moi, lorsque je fais des innovations sur le travail à l'intérieur de l'entreprise, je me fais balader. Je veux dire, qu'est-ce que vous faites ? C'est pas ça, le sujet, c'est le recyclage. Non, il y a aussi l'individu qui a des fumées, qui a des etc. On a tout un aspect environnemental humain qu'il faut regarder, également dans les entreprises, et qui n'est absolument pas regardé dans tout ça.
C'est très bien. Guy Geoffroy, je dois
vous dire. Oui, en reprenant, et sans polémique, parce que notre échange est intéressant, je présidais hier mon comité syndical où nous présentions le rapport d'activité 2021. Le volume d'ordures ménagères résiduelles, hein, la poubelle verte la plupart du temps, est passé dans mon syndicat, alors que la population augmente, de 45 000 tonnes à 44 000. Il y a donc une diminution de ce qu'on trouve dans la poubelle verte, parce que les efforts par ailleurs faits par les habitants, grâce à la sensibilisation à l'éducation des plus jeunes dans les écoles, fait un travail considérable, conduisent à ce qu'on ait moins d'emballage dans la poubelle des OMR. Donc on dépense moins en traitement et on valorise plus en recyclant. Donc les habitants font des efforts, la collectivité les accompagne, les encourage. Et on va voir la TGAP sur les ordures ménagères résiduelles non fermentescibles qui va continuer à augmenter. C'est ça que je dénonce. C'est le fait que l'habitant, au bout d'un certain temps, il va nous dire « moi je paye ». Je paye souvent de plus en plus cher. Hein, et quelquefois, la prestation ne me semble pas progresser. Hein, et on me taxe de plus en plus en disant que je suis un pollueur alors que je fais des efforts. Tout ça va peut-être, et je ne le voudrais pas, conduire à ce que les gens disent « bah tout ça pour ça ». On paye de plus en plus, ils ont qu'à, excusez-moi l'expression, se démerder avec nos déchets, hein, on va plus faire d'efforts et on va régresser. C'est ça que je veux pointer. Il y a un moment où l'impôt cesse d'être un indicateur de l'effort à fournir pour être un indicateur de l'abandon de l'effort à fournir. Et c'est un vrai sujet.
Alors, il a attendu patiemment. Merci pour votre patience, puisque avec nous également en plateau, nous avons Patrick Bariol, directeur général de l'ECO. Tout le monde ne connaît pas encore cet organisme. Vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît ?
En effet, alors, tout le monde ne connaît pas encore. Tout le monde connaît le monopole historique éco-emballage Citeo. Et l'ECO est un nouvel acteur sur le marché français qui a démarré son activité il y a 3 ans. C'est assez surprenant que la gestion de l'emballage, qui est la plus grande filière REP, alors REP ça veut dire responsabilité élargie du producteur, mais la plus grosse filière qui représente 800 millions d'euros d'éco-participation, alors là on n'est pas dans la taxe, hein. On est dans l'éco-participation des metteurs en marché qui ont cette responsabilité de financer l'éco-conception, la collecte, le tri et le recyclage des produits qu'ils mettent sur le marché. C'est le principe du pollueur-payeur qui est une directive européenne de 1992. À l'époque, il y a un éco-organisme qui a été créé et depuis, il n'y en avait qu'un. Et depuis 2020, les entreprises ont le choix sur le marché français d'adhérer soit chez Citeo, soit chez l'ECO. Alors, on est né de la volonté d'un groupe allemand qui s'appelle le groupe Riclé, qui est éco-organisme en Allemagne. En Allemagne, il y a 11 éco-organismes emballage. C'est peut-être un peu trop, mais le marché français méritait d'en avoir au moins 2. Et maintenant, c'est le cas. Donc, on est une jeune entreprise. On a quand même déjà 40 000 clients. On en avait 80 en 2020, 850 en 2021. Et on vient de passer le cap des 40 000. On a été aidé par la loi AGEC qui change vraiment la donne en ce qui concerne l'économie circulaire sur le marché français. Les décrets sont pas encore tout écrits. Il y a plein de choses qui se passent en France. Et nous, on est là, on est né en même temps que cette loi et on est là pour accompagner et pour faire mieux dans le domaine de l'emballage en France.
Alors faire mieux, qu'est-ce que ça veut dire effectivement faire mieux?
Alors Sophie de Menton disait tout à l'heure, il s'agit pas d'arrêter de consommer. Bien sûr, l'emballage est indispensable protéger, transporter, présenter le produit. Donc il ne s'agit pas de supprimer l'emballage, mais notre génération et la génération de nos parents, il faut reconnaître qu'on n'a pas forcément tout fait bien. Et on peut repenser la façon dont on consomme. Il y a encore peu de temps, on pensait impossible de ne pas avoir un sac de caisse en sortie de caisse. Aujourd'hui, on retourne tous avec nos sacs dans les grandes surfaces. Donc on peut changer les habitudes. Et on peut relancer, alors soit inventer des nouvelles choses, soit relancer des choses qui existaient. On parlait de la consigne pour réemploi. Il y a 2 consignes, hein. Il y a la consigne pour réemploi et la consigne pour recyclage. On ne jette pas son verre d'eau à la fin de son repas, mais on jette sa bouteille en verre. La consigne des bouteilles en verre existe dans les cafés, hôtels, restaurants. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en place pour relancer la consigne chez le particulier.
Et ces sujets semblent effectivement prendre, comme on dit, parce que si on regarde le nombre d'adhérents, alors c'est vrai que le monde d'après le Covid, encore plus il y a cette prise de conscience sur la préservation de la planète, qu'il s'agit d'être vertueux parce que c'est même une urgence. Et donc quand on regarde le nombre d'adhérents, l'éco, ça augmente de manière très très exponentielle presque.
Ça augmente de façon importante.
Vous étiez combien là? Vous êtes combien?
Alors on a été donc près de 40 000. On a été aidé par la loi AGEC qui a en fait imposé aux places de marché, donc les Amazon et compagnie, de mettre en conformité l'ensemble des vendeurs tiers, donc toutes les petites ou grandes entreprises qui vendent sur les places de marché et qui étaient complètement en dehors de la réglementation, qui ne payaient pas l'éco-participation comme toutes les autres entreprises. Il se trouve que Amazon a écrit à tous ses vendeurs tiers, ils ont dit mettez-vous en conformité, allez soit chez Citeo, soit chez l'ECO. Il y en a 3 000 qui sont allés chez Citeo, 30 000 qui sont venus chez Léco. Donc on a cette manne de producteurs et on est complètement dans notre rôle de mettre en conformité les entreprises qui mettent sur le marché français des produits. C'est un principe d'équité. Toutes les entreprises, le principe ne peut marcher que si toutes les entreprises sont logées à la même enseigne et que les taxes... Alors nous, on n'aime pas parler de taxes parce que l'éco-participation n'est pas une taxe et on aime bien ne pas le côté punitif, mais le côté de récompense. Donc dans l'éco-participation, le metteur en marché paye pour les matériaux qu'il met sur le marché, il paye au nombre de produits qu'il met sur le marché, et puis il est récompensé par des bonus qu'on appelle l'éco-modulation pour ses bonnes pratiques, pour que le producteur qui fait des efforts pour limiter l'impact de ses emballages sur l'environnement paye moins que celui qui va utiliser des matériaux non recyclables ou ne pas avoir une attitude positive.
Donc, voilà, donc on a l'éco en première table ronde, Citeo dans la deuxième. Augustin, Jacqueline, quand vous entendez ce que dit monsieur, vous souscrivez ?
Effectivement, hein, il y a des grandes tendances, et y compris dans la société, qui poussent soit à, entre guillemets, réinventer des choses qui ont pu exister par le passé, aller rechercher des idées vertueuses, et puis surtout innover pour que ces idées elles soient mises au goût du jour. Donc moi, je souscris au fait que les entreprises ont un rôle d'innovation et une innovation vertueuse d'un point de vue environnemental. Chez Lemon Tree, on est à la fois dans l'innovation technique, proposer ces automates qui sont des mini-centres de tri bourrés de technologies et qui font des trucs extraordinaires. Je vous invite à en utiliser si ça n'a pas encore été le cas. On le met à l'entrée des magasins ou dans des zones où il y a beaucoup de flux, des gares, des campus. On innove aussi sur tout ce qui est traçabilité. Et pour reprendre le sujet des grandes tendances, des changements, on voit à la fois les entreprises, mais aussi les consommateurs veulent plus de transparence. Tout à l'heure, on nous disait, on fait le tri à la maison, et puis parfois, on voit tout est remis dans le même camion. Mais ça, c'est ravageur. Alors, ça existe globalement à la marge, hein, c'est très... voilà. Mais évidemment, c'est ravageur pour le geste de tri, et on veut plus de transparence. Chez Lemon Tree, on prend ce sujet très au sérieux, parce qu'on comptabilise, on sait dire qu'est-ce qu'on a pris, à quel endroit, en quelle quantité, en quelle qualité, où ça va aller, avec en plus... des exutoires locaux, et ça c'est une autre des grandes tendances, privilégier plus de local à de l'export. En fait, on a des formidables usines de transformation en France qui parfois ne fonctionnent pas à plein. L'exemple des bouteilles en plastique, et je pense que nos intervenants suivants en parleront, il est flagrant. On récupère moins de 60% des bouteilles qu'on met sur le marché. On a toutes les usines en France qui savent parfaitement les transformer, qui manquent de matière, qui vont chercher de la matière chez nos voisins, parce qu'on n'arrive pas à les capter, parce qu'on n'arrive pas à les trier à la source. Donc nous, en tout cas, avec ce type d'innovation, on essaie d'agir là-dessus.
J'arrête un instant parce que vous avez utilisé le mot de transparence. Vous avez dit on veut plus de transparence, et vous êtes un de ceux, en préparant l'émission, vous m'avez dit la gestion des déchets souffre d'opacité et que c'est le deuxième trafic derrière la drogue. Alors ça, je ne savais pas. Il faut peut-être le dire, parce qu'on parle de préserver la planète, il faut faire mieux, des bonnes pratiques. On n'est pas juste dans la moralité. Il se passe des choses, il y a des enjeux importants.
Oui, alors c'est à l'échelle européenne, hein, ouais. Mais effectivement, j'étais le premier surpris en voyant cette étude. Le trafic des déchets, c'est l'ordre du banditisme européen, ça arrive en deuxième derrière la drogue. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a des gens peu scrupuleux, peu vertueux, qui vous disent « bah oui, on prend vos déchets, on va bien s'en occuper ». Et puis derrière, ça part dans des décharges sauvages. Parce que...
Comment on vérifie alors que nos déchets vont au bon endroit ?
Au Ghana ou non ?
Non, j'ai pas eu cette chance.
C'est intéressant le Ghana, c'est-à-dire que les montagnes sont désormais les vôtres. Donc effectivement, il suffit d'aller dans les décharges du Ghana, vous voyez des montagnes de téléphones portables, des montagnes.
C'est
montagnes,
sûr que c'est nouvelles montagnes. C'est absolument hallucinant, et c'est aussi ça que je disais, c'est-à-dire privilégier le local, des structures. Nous, on travaille avec près 40 transformateurs. Donc, c'est des plasturgies, des alumineries, des aciéries, des cartonneries qui sont sur le territoire et qui sont en capacité de transformer la matière. Et pourquoi ils ne sont pas suffisamment alimentés ? C'est parce qu'il faut leur fournir des quantités régulières, de la matière de qualité, Et ça, c'est
vous,
c'est
vous
dès
imaginez
le qu'on faire.
Fait 1500 km pour apporter des déchets, quel est le, pour la planète,
c'est,
comme on
c'est
dit,
une catastrophe
c'est
environnementale.
C'est une stupidité.
Alors,
or, c'est ça,
il y a encore 12 millions
c'est
de tonnes
qui sont aujourd'hui.
Qui sont
c'est ça
exportées.
Que nous vivons aujourd'hui. Hein
Guy Geoffroy, président de l'association Météor, nous donne son point de vue.
Oui, moi, d'accord sur la transparence et surtout d'accord pour qu'on arrête de prendre les quelques exemples extrêmement rares de non-vertu pour dire que tout ceci ne fonctionne pas. Moi, je voudrais faire un couplet en faveur des partenariats et de la confiance.
Qui avec qui, alors les partenariats
Je parle des déchets ménagers qui sont une responsabilité fixée par la loi aux collectivités. Hein, la loi a confié dorénavant aux intercommunalités la responsabilité de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés. Il faut faire confiance aux élus. Moi, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je me suis investi dans ces sujets, que je connais, je crois, assez bien, et peut-être même sur le bout du doigt. Hein, les élus qui s'investissent dans ces sujets sont des hommes et des femmes extrêmement compétents, extrêmement soucieux du bien commun dans tous les sens du terme, que ça soit le mieux possible et le moins cher possible. Il faut faire confiance aux entreprises, à nos partenaires. Hein, le partenariat entre une collectivité, un syndicat dédié, et l'entreprise qui va construire l'installation, qui va ensuite la faire fonctionner, c'est fondamental. Hein. Et il faut faire confiance aux habitants qui eux-mêmes nous font confiance s'ils savent, et ils le savent rapidement, que nous faisons bien le job et que nous allons vers l'intérêt général. Et il faut faire confiance à la science et à la technologie. Quand moi je constate que 100% de la matière organique qui entre dans l'usine à partir de nos poubelles vertes. Hein. Moi, j'ai fait des petits bacs hein, transparents avec ce qui rentre dans nos digesteurs après la chaîne de tri et ce qui sort ensuite comme compost. C'est très parlant. Vous voyez un capharnaüm dans le premier, vous voyez dans le second une matière qui, avant digestion, c'est-à-dire avant production de méthane, est déjà du compost normé. Et ensuite, vous voyez le compost quand il y a eu structuration, etc., avec notamment du déchet vert qui lui-même a été broyé. Il faut faire confiance à la machine. Elle fait mieux que l'homme. Moi, j'ai beau essayer d'enlever dans mon pot de yaourt, quand on le mettait encore dans la poubelle verte, parce que maintenant on peut le mettre dans la poubelle de recyclage. Mais quand j'essaie de récupérer la matière organique, ce qu'on appelle le biodéchet, qui n'en est pas. Vous mangez 100% de bio, vous ? Donc la matière alimentaire, c'est de la matière alimentaire, c'est pas un biodéchet. Qu'on arrête d'utiliser des termes pour tourner la tête des gens. Hein, on dit la vérité. Bon, on réussit pas, nous-mêmes, à collecter 100% du déchet alimentaire que nous produisons. La machine, elle, sait le faire. Faisons confiance aux élus, qui sont des gens responsables. Faisons confiance aux habitants, qui, bien guidés par les élus, sont capables de faire des choses qui progressent. Faisons confiance à nos partenaires industriels, qui savent mieux que le commun des mortels exercer leur métier. Faisons confiance à la machine, parce que la machine sait mieux faire et de manière moins pénible que nous un certain nombre de choses qui vont nous permettre de progresser sur tous ces sujets.
Alors pour qu'on pédale pas dans le yaourt, vous parlez de yaourt, j'aimerais parler des catégories de déchets. Je ne sais pas si Adeline Motte, vous vous souvenez de cet article que vous aviez écrit, hein, ils sont répartis en plusieurs sortes ces déchets. Où vont-ils? Je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelques mots.
Oui, alors vous avez les déchets minéraux, vous avez les déchets dangereux, et vous avez le reste, pour le dire assez simplement. Les déchets minéraux sont principalement produits par la construction, donc c'est la pierre, principalement la pierre, on va rester simple. Ça représente, si ma mémoire est bonne, entre les deux tiers et à peu près les deux tiers, je sais pas quand je dis pas de bêtises.
69%, non, je crois.
Voilà, merci.
Vous avez lu, hein,
merci,
je suis bonne élève.
Merci, je suis très impressionnée.
Sur les déchets du bâtiment.
Non, sur les déchets minéraux, donc qui ne sont pas produits exclusivement par le bâtiment, mais qui sont produits principalement par le bâtiment. Si vous en faites, si vous concassez dans votre jardin, vous allez produire des déchets minéraux. Vous faites ce que vous voulez dans votre jardin.
Merci Adélaïde de nous s'autoriser.
Voilà. Donc les déchets minéraux qui représentent 69% et qui sont effectivement principalement recyclés, notamment parce que, encore une fois, ils sont surtout produits par le bâtiment et que le bâtiment recycle beaucoup. Après, vous avez les déchets dangereux. Alors, qui fait à peu près 13%, si ma mémoire est bonne. Donc les déchets dangereux, bon, alors ça c'est évident, c'est ce que... Ce qui est notamment concerné par la fameuse TGAP dont on parle depuis tout à l'heure, c'est la taxe sur les activités polluantes. Donc eux, ils sont principalement recyclés, valorisés. Parce que recycler, c'est un... Recycler, en fait, c'est dans le jargon technique, c'est un acte précis. Mais ils sont soit valorisés, soit recyclés, soit incinérés avec valorisation de l'énergie. Vous en avez parlé, donc on récupère l'énergie pour en faire de la chaleur ou de l'énergie elle-même. Et enfin, il y en a une petite partie qui est incinérée sans valorisation. Et à la fin, 27% à peu près, normalement ça doit faire 100, vous avez le reste qui est donc de plus en plus recyclé, quoique de plus en plus chèrement.
Alors, la gestion des déchets est-elle optimale en France ?
En fait, elle pourrait être optimisée avec moins de réglementations. Vous avez un peu tous parlé des réglementations, vous n'êtes pas les seuls. Ça va être très long. La mission d'évaluation de politique publique sur la gestion des déchets par les collectivités territoriales. Ouf ! C'est une mission qui a été menée en 2014 et qui trouve que les réglementations sont trop lourdes et empêchent, en fait, par rapport à d'autres pays européens, de bien recycler. Donc elle suggère une plus grande liberté de choix, notamment dans les modalités de collecte. Donc la collecte est organisée par les collectivités territoriales, il y a un certain nombre de réglementations autour de ça, ce qui empêche de faire aussi bien qu'on le pourrait. Au Royaume-Uni, par exemple, depuis les années 80, vous avez une privatisation de la gestion des déchets, assorti d'une déréglementation et d'une sous-traitance qui a permis des économies d'échelle.
Patrick Bariol, vous voulez, oui c'est ça, de DG de l'ENCO, vous voulez rebondir là-dessus.
Oui, alors on recycle en effet très bien, mais tout dépend des matériaux. Il y a des matériaux qui se recyclent très très bien, les métaux, le verre. En revanche, la France est très en retard sur le recyclage des plastiques. On est à 29% du recyclage des plastiques. Alors c'est mieux sur les bouteilles et flacons, on est à 60-61%, mais on est encore loin de l'objectif que la France s'est donné il y a plus de 10 ans, de 75%, tout emballage confondu. De recyclage, on stagne en dessous de 70%. Donc, les nouvelles directives européennes, en particulier sur les bouteilles, tendent vers 90, voire vers 100%. Donc, il y a encore du chemin à parcourir pour mieux recycler. Et le secret d'un bon recyclage, c'est le tri. Et c'est le tri, si possible, à la source. Parce que vous parliez du pot de yaourt, ce qu'on fait tous, on utilise le pot de yaourt comme poubelle de table à la fin du repas et on met ça, dans peut-être la bonne poubelle ou pas. C'est une catastrophe. Pour bien recycler, il faut séparer les éléments. Et même si on met tous les éléments dorénavant dans le bac jaune, tous les éléments d'emballage, c'est l'extension des consignes de tri où l'outil industriel porté par les collectivités locales a été adapté en France pour pouvoir que le tri se fasse de façon automatique le plus possible dans les centres de tri. En revanche, il est important d'insister sur le fait, et les consignes de tri qui sont en train de changer sur l'ensemble des emballages indiquent ça, qu'il est important de séparer les éléments d'emballage, donc l'opercule du pot de yaourt, la barquette plastique de l'étui carton. Le bon geste de tri, c'est donc de séparer et de mettre tout ça dans le bac jaune. Et les collectivités locales, en effet, par les investissements qui ont été faits, financés, je le rappelle, à 80% par les metteurs en marché, 80% du coût de collecte et de recyclage est financé par tous les industriels qui mettent sur le marché.
Justement, je donne la parole à un industriel, Loïc Leflocq-Prigent.
Lorsqu'on voit les réglementations, comme le dit la LDEID, partir dans des délires, on sait qu'à un moment, il va se passer quelque chose. Or, on est dans ce délire. C'est-à-dire que vous n'imaginez pas ce qui arrive dans une petite municipalité lorsqu'arrive le tri que vous êtes en train de décrire. C'est-à-dire que moi, je ne vis pas seulement à Paris, heureusement, parce que c'est invivable, mais c'est ahurissant. C'est-à-dire que les gens reçoivent, le tri va changer, là, paf, deux pages. Qui va lire ces deux pages et qui les comprend? Moi, les gens de mon village viennent me voir et me demandent « Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors qu'est-ce qu'il faut faire ?» Je dis « Mais vous avez tout, il suffit... » Non, explique-moi comment on fait. Donc, à un moment, il faut que la technocratie comprenne qu'elle est arrivée à un point de rupture et que nous y sommes. Et qu'il faut arriver à éduquer, alors comme l'a indiqué la fois, indiquer et avoir confiance dans les gens en disant voilà, voilà quel est l'objectif. Bon, dans un premier temps, voilà ce qu'on fait. Hein, mais là, c'est absolument inassimilable. Alors pour nous, industriels, c'est affreux parce qu'on est en train d'avoir des réglementations qui sont l'inverse de ce qu'il faut faire. Et donc, j'explique, moi, aux gens qui viennent me voir, au Dréal, écoutez, je ne vais pas faire ce que vous me dites de faire, parce que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que mon activité est spéciale par rapport à celle que vous avez. Ah ben oui, moi, j'ai mon tableau Excel, moi, je suis obligé de faire... Non. Et à la fin, ils me disent, vous allez avoir une mise en demeure pour cessation d'activité. Moi, j'ai dit, allez-y. Vous voyez, c'est à un moment, et nous y sommes. Nous y sommes. Et l'environnement devient pénalisant. Et en plus, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, M. Lacan, il devient punitif. Non, moi, je n'ai pas besoin d'être puni, moi. Moi, j'ai besoin d'être reconnu comme ayant fait du boulot. Et je peux le démontrer. Mais ça, c'est inaudible.
Très bien. Je reviens vers Guy Geoffroy, président de l'association Météor. Vous parliez tout à l'heure de votre objectif promouvoir la méthanisation. Est-ce qu'il y a convergence sur la méthanisation, hein? Vous disiez, vous parlez aux collectivités locales, vous êtes en interaction avec les citoyens, les entreprises, sur ces solutions de la manière de traiter les déchets. Est-ce qu'il y a une convergence sur la méthanisation ?
Alors, c'est complexe alors que c'est très simple. derrière la méthanisation, il y a la question que fait-on du digestat issu de la méthanisation ? Et toutes les difficultés de développement de la filière viennent de là, ce qui est stupide. Hein, tout le monde est d'accord pour dire que de la matière organique fermentescible doit pouvoir fermenter pour produire de l'énergie. Que ce soit du biogaz que l'on injecte dans les canalisations GRDF, ce qui est possible maintenant, que ce soit du biogaz qu'on génère et avec lequel on fabrique l'électricité, ça marche bien, mais c'est pas le plus rentable, ou que ce soit du biogaz qu'on transforme ensuite en gaz naturel véhicule, bon, etc. Donc, personne ne conteste ça, mais la bagarre, et c'est là où je parle des ayatollahs à qui il faudra un jour trouver le moyen de tordre le cou, c'est sur ce qui sort. Avec cette contestation de la qualité de la matière organique sous forme de compost qui ensuite est issue de la méthanisation des déchets ménagers. Nous, on fait la démonstration. Moi, je reçois dans mon installation la terre entière. J'ai reçu des ministres, j'ai reçu le président de l'ADEME. Quand ils rentrent, ils sont pleins des préjugés qu'on leur a mis dans le cerveau, à savoir que ce compost, il fallait surtout pas le mettre dans la terre parce qu'il était pourri de toutes parts. Et puis, quand ils sortent de là, ils disent « Mais pourquoi ne savais-je pas ça plus tôt ?» Bon, donc, il y a un gros problème qui est celui de la confiance dans les normes et leur application telles qu'on les a fixées elles-mêmes. La norme NFU 44051, c'est celle qui est en vogue et en vigueur pour le compost issu des déchets ménagers, elle est extrêmement rigoureuse, exigeante, et c'est très bien. Nous, on a créé, au-dessus de la norme, une marque, Terrom. Terrom, c'est la norme NFU 44051 plus 10% d'exigence. Et le compost qui sort de mon installation, c'est Terrom. C'est-à-dire qu'on va plus loin que l'exigence de la norme et on nous dit ça va pas, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que l'on veut ? Alors, on veut le compostage à la maison. La petite pile que le gamin va mettre dans le composteur, parce que lui, c'est pas le gamin à 3 ans que la petite pile, elle doit pas trouver sa place là. Elle va pas ensuite permettre à ce compost d'être totalement pollué et d'aller dans mon jardin, polluer le sol, etc. Mais j'aurais bonne conscience, j'aurais fait le compostage à la maison, c'est-à-dire le mieux que la planète puisse faire, alors qu'on n'a pas fait confiance à la machine, on n'a pas fait confiance à l'intelligence de l'homme et à la capacité de la science et de la technologie de faire avancer la cause humaine. C'est ça le sujet. Je voulais rajouter quelque chose. L'éco-participation, c'est les entreprises qui la payent, hein, mais c'est les habitants, hein, c'est le consommateur. Moi, bah oui, non, mais donc, c'est le même. Hein, c'est le même qui est pas pénalisé, qui est mis dans le jeu quand il achète, quand vous allez acheter un réfrigérateur, dont éco-participation. Donc c'est l'entreprise, elle perçoit ce que l'habitant paye en fonction de la réglementation. Donc l'habitant, il paye tout le temps. Hein, il paye à l'origine, il paye ensuite au moment où on va collecter, et puis il paye ensuite au moment où on va traiter. Il paye tout le temps. Donc ne lui donnons pas tous les arguments pour arrêter de faire ce que les Français ont commencé à faire et font de mieux en mieux, c'est-à-dire être intelligents par rapport à leurs déchets. Hein, et arrêtons de dire que nous ne produirons jamais de déchets, nous produirons toujours des déchets, il faut en produire de moins en moins, il faut qu'on soit capable de serrer les déchets que nous produisons, de leur donner la chance d'être ensuite une richesse et une ressource, et non pas un déchet dont on ne veut plus entendre parler. Allons dans le sens du positif et arrêtons d'aller dans le sens du négatif et du punitif.
Un peu d'éducation de nos administrations, d'éducation scientifique ne nuirait pas.
Absolument.
Alors, non, parce qu'en général, c'est ça le problème. Parce qu'on a en face de nous des gens qui ne comprennent rien à ce qu'on fait.
Absolument.
Alors, l'idée qu'on aura plus de déchets à l'avenir est utopique. Augustin, Jacqueline, tant mieux pour vous. Hein, vous avez des perspectives de développement.
Bah, effectivement, hein, nous, notre objectif, c'est de répondre aussi à une urgence environnementale. Hein, je le rappelle, parce que ces lois, elles ne sont pas que là pour nous punir. Hein. Ce sont aussi des points de bascule pour aller faire plus et pour aller faire plus vite.
Ça, c'est un peu de la communication, ça, hein, parce qu'on fait beaucoup et on fait bien. Alors, on peut faire mieux.
Mais disons que l'urgence.
Non, il faut aussi qu'on arrive à ne pas déposer le bilan de toutes les entreprises. Il faut pas charrier.
Hein, alors, il va juste s'exprimer un tout petit peu.
Il y a une limite.
Allez-y, Augustin Jacquelin.
Tant mieux si l'entreprise de monsieur Le Floch-Prigent fait bien. Mais c'est pas forcément le cas pour tous, ou en tout cas, il y a des marges de progression, et ces accélérateurs, bah, nous on le voit, hein, on a lancé notre activité pour justement aider à mieux gérer, donc de façon plus environnementale, aussi plus sociale, mais c'est pas forcément le débat du jour, mais c'est un sujet moi qui me tient à cœur, parce qu'on est engagé dans une démarche sociale. Ce sont 800 clients qui sont venus nous dire, bah effectivement, on gérait pas suffisamment bien. La loi nous a peut-être mis un petit coup de pied aux fesses. En tout cas, on regarde parce que on a aussi un intérêt économique à faire mieux. C'est aussi ça, ces points de bascule. Encore une fois, la TGAP ne sanctionne pas les modes de traitement les plus vertueux. Donc, si vous transférer une partie de vos déchets d'un centre d'enfouissement, d'un centre d'incinération vers des flux de recyclage.
Vous arrivez à m'expliquer que la taxe n'est pas punitive, c'est ça que vous dites?
Non, je suis en train de dire que c'est un accélérateur.
Je veux dire que quand je paye, c'est dur. Hein.
Je les paye aussi. Hein. Je suis en train de dire que c'est un accélérateur, en tout cas ça a mis sur la table la loi AGEC, la loi Climat Résilience, des sujets comme quoi il faut qu'on aille plus vite. Il faut aussi, par rapport à des ambitions, que ce soit celles qu'on s'est fixées en France, hein, au début du premier quinquennat Macron, on nous a dit on recyclera 100% des plastiques en 2025. Monsieur Bariol le disait juste avant, on est à 29%. Donc la marge de progression, elle est énorme. Et donc forcément, là, ça pose les questions, ça accélère en fait cette transition. Et si on fait bien, on allège en fait ces taxes. Aujourd'hui, c'est devenu économiquement intéressant pour des boîtes, par exemple, de travailler avec nous, là où avant, c'était seulement au bon vouloir de ceux qui, par engagement environnemental, par engagement social, avaient envie de faire mieux que l'exigence.
Alors, Monsieur Guy Geoffroy de l'association Météor, j'aime bien parce que vous dites, on a la nécessité de faire dire aux déchets ce qu'ils ont à dire. Vous faites parler les déchets, racontez-nous qu'est-ce qu'ils disent.
Les déchets, ils nous disent que Lavoisier avait raison.
C'est-à-dire, tout se transforme.
Que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et il avait raison.
Alors, il ne dit pas comment on le transforme, parce que c'est un peu la question quand même.
Moi, je voulais, pour répondre à votre question, partir de ce qui vient d'être dit. Je suis d'accord pour un impôt qui frappe l'enfouissement ou l'empilement de ce qui aurait dû être ou recyclé, ou traité, ou valorisé. Mais quand on est sur ce que j'appelais tout à l'heure le refus de compostage, c'est-à-dire ce qui est dans ma poubelle verte, qui n'est pas fermentescible par nature, donc qui peut pas être pétalisé, il faut bien en faire quelque chose. On l'incinère, parce qu'on ne peut rien en faire d'autre que de l'incinérer. Et on a une TGAP qui, d'une année sur l'autre, passe de 5 à 12 euros la tonne, et qui va continuer à augmenter. C'est là où je dis que ça va pas. Moi, je serais d'accord pour qu'on dise, ceux qui enfuient, c'est-à-dire qui ne font aucun effort pour traiter la matière organique, pour ensuite prélever à la source les emballages ou les valoriser s'ils n'ont pas pu être traités, prélevés à la source. Hein, que cela, oui, on leur dise. Hein, j'aime beaucoup la Corse, mais la Corse nous envoie en métropole ses déchets parce que en Corse c'est la bagarre. Hein.
Vous parlez pas des terroristes.
Non, 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 faut pas faire ceci, faut pas faire cela, mais on produit quand même des déchets. Bon, le jour où on refusera de prendre en métropole les déchets de la Corse, il y aura peut-être quelques problèmes en Corse, mais ça c'est autre chose. Donc, que l'on sanctionne ceux qui ne veulent pas faire l'effort de comprendre que le déchet pris dans le bon ordre a des choses à dire et a des choses à nous apporter, oui, mais dans l'ordre des choses, vous dites à un habitant, hein, continuez, vous progressez et on progresse avec vous. Mais il y a une étape du traitement de ce que vous faites l'effort de mieux prendre en compte, qui, elle, va vous coûter de plus en plus cher. C'est ça qui ne passe pas. Hein. Il faut qu'on arrête de sanctionner et de présenter, avec des intitulés toujours péjoratifs, « activité polluante ». Ben je regrette, incinérer ce qu'on n'a pas pu méthaniser parce que ça n'est pas méthanisable, ce n'est pas de l'activité polluante, c'est au contraire une activité au service d'une valorisation énergétique intelligente des déchets qui ne peuvent pas bénéficier d'une autre forme, recyclage ou méthanisation, c'est-à-dire production de biogaz. C'est ça que nous revendiquons, c'est-à-dire la confiance dans notre capacité à faire avec les habitants prendre le déchet comme la richesse qui, dans le bon ordre de ce qu'elle peut nous offrir à nouveau, hein, va permettre de sortir de ces cycles infernaux que nous vivons. J'ajoute, dernière chose, qu'effectivement, un des gros problèmes, c'est la capacité de notre industrie à créer les outils de transformation sur place, hein, des emballages en particulier. Moi, j'ai un écopôle sur mon territoire, je lance des appels à tout le monde, hein. Venez créer chez moi, et je l'assumerai, une unité industrielle qui transformera les plastiques. Hein, je l'assumerai auprès de mes habitants qui me diront « ouais, c'est polluant, etc. »
C'est où chez vous, précisément, parce que l'appel va être entendu. C'est où chez vous?
Bah c'est l'agglomération de Sénart, commune de Comble-la-Ville. Moi, je le revendique, parce que moi, je suis de ceux qui disent « il faut qu'on assume chez nous l'ensemble de la filière de la consommation et donc de la production de déchets jusqu'au recyclage. » Mais ça ne marche pas. Hein, parce qu'on a peur, on se dit, bon, d'abord, est-ce que les investissements vont être rentables? Et ensuite, ceux qui auraient cette folle idée pourraient se dire, oui, mais je vais avoir toute la population contre moi. Mais moi, je veux dire à la population, hein, vous ne pouvez pas demander une chose le matin et retourner la pancarte l'après-midi en défilant exactement en sens inverse. Bon, là aussi, moi, je fais confiance à mes collègues élus pour avoir le courage. Mais le courage, ça s'entretient. Le courage, ça s'encourage. Hein, le courage, ça ne se décourage pas.
Et ça ne se décrète pas. Le DG de l'Éco, je vous voyais opiner, Patrick Bariol. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
Ouais, la collaboration avec les collectivités est indispensable. C'est tout ça. Et le rôle de l'éco-organisme, c'est une chaîne entre le producteur, le metteur en marché, le consommateur, bien sûr, pour bien l'informer, lui dire comment bien trier, la collectivité qui va trier, et puis, on l'oublie souvent, l'industrie du recyclage. Et bien souvent, ce lien, il n'est pas fait. C'est la gestion d'un produit et d'un déchet, c'est une chaîne, et entre les deux, il y a aussi le réemploi, qui est un nouveau domaine, parce que avant de recycler, on peut réemployer, et là, il y a une loi, le décret vient de paraître, toutes les entreprises de plus de 50 millions, qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, vont devoir, dès 2023, c'est demain, avoir 5% d'emballage réemployé. Et crescendo à 10% jusqu'en 2027. Alors on peut dire c'est 5 ou 10%. C'est pas suffisamment ambitieux, mais la loi a fixé ça. Et alors ça peut être facile pour certaines industries. On va dire, voilà, on citait les bouteilles en verre, on va relancer ça. Votre emballage de grille-pain, comment le rendre employable? Il va falloir créer des choses. Donc c'est le rôle de l'éco-organisme de travailler secteur par secteur pour savoir comment on va faire ça. On est en train de travailler avec un grand acteur de la téléphonie pour que l'emballage du téléphone puisse être réemployé au même titre que le téléphone, reconditionné, et qu'il puisse avoir plusieurs vies. Donc maintenant c'est dans la loi, donc les entreprises vont devoir se mettre en ordre de bataille, aider, accompagné par les éco-organismes pour faire ça. 5% 5%, c'est pas neutre. 5% de 800 millions hein, va devoir être utilisé chaque année par les éco-organismes pour lancer des projets pour favoriser le réemploi. Donc, voilà, on peut dire la réglementation a des travers, mais elle a aussi le bénéfice de faire avancer les choses, de pousser, et pour que tout ça aille dans le bon sens. Et je pense que c'est plutôt positif.
Du moment qu'on ne rentre pas dans les détails techniques qui évoluent avec la science, on est tranquille. Quand on donne des directions, ça me choque pas parce que vous dites, au contraire, m'incite à travailler. Bon, mais le problème, c'est que il y a des réglementations qui sont liées à la science d'aujourd'hui et la science de demain est immédiatement évolue, ou la science qu'on connaît. Et c'est ces réglementations qui nous handicapent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on tombe devant des gens qui n'ont pas compris que la science et la technique et l'industrie ont évolué. Et ça, c'est épouvantable. Pour un industriel, c'est épouvantable.
Augustin, chacun de votre point de vue, quel regard portez-vous sur ce qui vient d'être dit ?
Alors d'abord, moi, je suis évidemment support de ce qui est poussé par Monsieur Bariol sur des nouveaux modes de traitement. Et de ce point de vue-là, effectivement, les dernières lois vont dans le bon sens. Ça peut paraître effectivement faible, les 5 ou les 10%, mais c'est déjà une petite révolution. Et chez Lemon Tree, on a le souhait de respecter en fait la hiérarchie de traitement des déchets pour aller vers des choses de plus en plus vertueuses. Hein, quand on regarde les boucles de l'économie circulaire, d'abord réduire. Et certes, on ne fera pas disparaître nos déchets, mais on peut quand même, déjà en ayant conscience de ce qu'on consomme, en donnant une valeur à ces déchets, c'est un premier pas vers la réduction. Le réemploi, ça ouvre, et y compris techniquement, des champs formidables pour réinventer des business models, la façon dont on produit, dont on achemine, parce que derrière, il y a des sujets logistiques énormes. Donc tout ça, c'est passionnant et ça va dans le bon sens. Et le recyclage, forcément, nous, c'est une grande partie de notre activité. Alors, on n'est pas des recycleurs. Nous, on collecte et on prépare cette matière pour qu'elle puisse être bien recyclée. Et c'est là un des points... Alors, on répondra pas du coup à votre appel d'aller construire une usine de transformation du plastique parce que c'est pas notre métier.
Oh, il est déçu, regardez.
Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de répondants? Parce que effectivement, il faut apporter des garanties. Il faut que quand on monte une unité comme ça, il faut avoir des garanties de rentabilité et elles sont liées à la capacité de récupérer dans des quantités suffisantes. On ne construit pas une usine de transformation du plastique si on n'a pas au moins 30 000 tonnes qui rentrent. Et ces 30 000 tonnes, ce n'est pas un boogie-boulga de plastique qu'on va transformer par magie. Il faut quelque chose de bien trié, de préparé. Donc nous, c'est tout ce travail qu'on fait en amont. Et il passe à la fois par des choses très simples, le tri à la source, donner les moyens aux gens de trier dès le départ de la meilleure façon qui soit, et aussi par des innovations et des technologies qui évidemment aident et facilitent, comme vous le faites avec le sujet des déchets fermentescibles, pour séparer de façon aussi automatique, mécanique, pour qu'à la fin on ait quelque chose de propre qui puisse être transformé.
Je ne sais pas, Adélaïne Mott, si vous voulez pour l'IREF ajouter quelque chose, hein, on se rend compte que la France jette trop, valorise mal. Vous avez un background, un éclairage à apporter?
En fait, on l'a beaucoup dit, mais en fait, pour que la France arrive à faire mieux, ce qu'il faut, c'est principalement laisser l'innovation prendre sa place avant de la ceinturer par des réglementations, par des taxes. L'important, c'est l'innovation. Vous en avez un exemple très bon. Au 19e siècle, le goudron de houille qui était très nocif, qui était un déchet. Et finalement, c'est devenu une matière première pour enduire les poteaux télégraphiques et les voies ferrées. Donc déjà à l'époque, on essayait de valoriser les déchets. Enfin, personne ne produit des déchets pour le plaisir. C'est parce qu'on en a besoin pour cette activité. Mais un déchet, ça coûte quand même de l'argent, donc c'est pas très pratique. Ce serait mieux de pouvoir en faire quelque chose. Et pour ça, l'innovation reste le meilleur moyen.
Est-ce que chez Météor, vous souhaitez revenir effectivement sur cet appel et sur ce qu'on peut faire à partir de maintenant, parce qu'on est dans un nouveau mandat, hein, Macron 2, des injonctions avaient été données. Est-ce que le cap, il est bon ou il y a des choses à changer?
Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis peut-être plus précisément maintenant. Ce qu'il faut changer, c'est la vision trop désincarnée, trop éloignée des réalités qu'ont les technocrates de nos ministères sur ces sujets. Si on passait de l'idéologie au pragmatisme, en ces sujets très concrets qui concernent chaque personne à chaque seconde de sa vie, je pense qu'on ferait des progrès considérables. Hein, parce que notre pays, il a tout dans les mains. Il a une histoire, un potentiel, une inventivité, une ingéniosité. Il a des gens qui sont capables de faire des choses que les Américains vont nous envier et vont nous piquer. Donc notre pays, il est formidable en inventivité pour peu qu'on ne le bride pas. Donc je demande aux gens, pas aux gens qui nous gouvernent, mais aux gens qui glissent dans l'oreille de ceux qui nous gouvernent des choses impossibles, des choses qui bloquent. Je leur demande d'accepter qu'on discute avec eux et qu'on évite leur zoukaz. C'est tout.
Très
moins
bien.
Zoukaz, plus de liberté, et vous verrez que nos déchets, ils nous apporteront encore plus qu'aujourd'hui.
Et plus de science.
Je connais une autre personne qui n'aime pas les zoukaz, c'est Loïc Lefloc-Prigent. Je lui donne donc la parole pour ce mot de conclusion, pour cette première table ronde.
Je pense que c'est passionnant d'avoir une table ronde qui permette d'avoir des points de vue différents. Hein. Et je pense que sur ce sujet, ça arrive rarement. Hein. Donc je suis très admiratif à la table ronde qu'on a réussi à avoir. Et je crois qu'il faut arriver dans l'esprit du public à comprendre que ce qui est possible, c'est toujours d'avoir une avance dans la science et dans la technique. C'est ça le sujet. Et que dès qu'on a des réglementations trop strictes, on est en retard déjà. On est déjà sur le monde d'avant, comme on dit chez les jeunes. Et je n'arrive pas à comprendre comment des gens jeunes, puisqu'il y a pas mal de jeunes autour des politiques d'aujourd'hui, sont aussi passéistes dans l'idée que la science est figée, qu'elle n'évoluera pas et qu'il faut... on voit bien que sur la méthanisation qu'a développée Guy Geffroy, on voit bien que le problème est de trouver le business model qui conduise à ce que cette méthanisation soit effectivement rentable. Et il se trouve que le gaz qu'on va chercher, le gaz naturel, et que j'ai aidé à chercher pendant des années, comme chacun sait, est très rentable. Et par conséquent, il faut arriver à ce que le business model de la méthanisation rattrape. Alors la manière dont il a été rattrapé en Allemagne, ça a été de détourner la PAC pour que non pas des déchets, mais des produits qui auraient pu être alimentaires, deviennent des produits pour la méthanisation. Bon, c'est un détournement de subventions. C'est, bon, ça a permis aux agriculteurs allemands de survivre, mais ce n'est pas le sujet. Donc vous voyez, il faut arriver à faire coller ce qu'on a envie de faire, les objectifs, avec l'aide de la science pour arriver à un business model acceptable. Et ça, c'est compliqué et ça nécessite de la confiance entre les industriels, les collectivités locales et ça nécessite moins de hurleurs et moins de gens qui savent la vérité alors que moi, je ne sais pas ce qui va arriver demain, mais ce que je veux dire, c'est que j'y travaille.
Eh bien, les déchets des uns font la richesse des autres. L'animation de cette table ronde numéro 1 prépare la seconde avec des invités tout aussi intéressants. Il me reste à remercier les participants et je vous laisse vous occuper de vos déchets, les trier dans les bons bacs. Et je vous dis à tout de suite, on continue ce colloque sur l'avenir est dans nos poubelles.